Chapitre 3. Nicole termina ses abricots secs, puis alla jeter le sachet dans la poubelle. Le récipient débordait. Elle tenta de comprimer les détritus avec le pied, mais le niveau baissa à peine. « Mes provisions s'épuisent », pensa-t-elle en regardant machinalement les réserves de nourriture sur l'étagère. « Je pourrais tenir 5 jours au maximum. » Jeanne et Aliénor étaient absentes depuis 48 heures. Au cours des 2 premières semaines passées sous le poulailler de Max, un des 2 robots lui avait constamment tenu compagnie. « Ce sont les plus grandes inventions de Richard », se dit-elle en s'asseyant. « Il a dû y consacrer des mois de travail. » Elle se rappela ses personnages shakespeariens. « Elles sont bien plus perfectionnées que le prince Hal et Falstaff. Richard a fait de sérieux progrès en collaborant à la mise au point des biotes humains du Nouvel Éden. » Jeanne et Aliénor la tenaient informée de ce qui se passait dans la colonie. Elle devait récolter un maximum de renseignements et adresser des rapports par radio à Richard au cours de leur sortie hors de l'habitat. Elles en parlaient à Nicole, qui avait ainsi appris que la police spéciale de Nakamura fouillait tous les bâtiments. Des agents étaient naturellement venus à la ferme de Puckett et elle avait passé 4 heures dans une obscurité totale. Mais les visiteurs avaient abrégé leur séjour dans le poulailler nauséabond. Depuis peu, Jeanne et Aliénor devaient quitter en même temps la cachette pour coordonner la phase suivante de l'opération. Nicole avait demandé à Jeanne comment elles échappaient à la vigilance des gardes en faction à l'entrée du Nouvel Éden.
C'est très simple. Des camions franchissent les postes de contrôle pour aller ravitailler les troupes et les équipes chargées des travaux de construction dans l'habitat voisin. Sans parler des gens qui vont à Avalon. Nous passons inaperçus au milieu de ce trafic.
Elles lui dirent aussi que les humains avaient envahi le domaine des Aviens et des Céciles et exterminé ses occupants. Richard n'avait pas encombré leur mémoire avec des détails, mais elle savait qu'il avait réussi à fuir pour New York avec 2 œufs d'Aviens, 4 pastèques man contenant des embryons de Myrmisha et un fragment de Cécile adulte. Elles purent même préciser que 2 oisillons étaient éclos quelques mois plus tôt et que Richard avait fort à faire pour pourvoir à leurs besoins. Nicole imaginait mal son époux dans le rôle d'une nourrice pour bébé extraterrestre, lui qui ne s'était jamais vraiment intéressé à sa progéniture.
Son enfance a été trop pénible, se dit-elle en pensant à ses révélations sur la brutalité de son père. Il ne pouvait accorder ni son amour ni sa confiance. Il n'avait pour ami que les fruits de son imagination et ses robots. Mais il a changé depuis notre installation dans le Nouvel Éden. Je regrette que l'occasion de lui dire à quel point j'étais fier de lui ne se soit jamais présentée. C'est pour cela que je voulais lui laisser une lettre.
Elle se retrouva brusquement dans le noir. Les policiers devaient être revenus, mais elle n'entendait aucun bruit. Le temps s'écoulait avec une lenteur exaspérante. Finalement, il y eut des pas dans le poulailler. Une troupe importante. Elle sursauta quand elle entendit murmurer juste à côté d'elle.
« Envahis-moi, ami impitoyable, rappelle-moi que je suis seule. »
Elle reconnut la voix de Jeanne, qui lui récitait un poème sur la peur écrit par Benita Garcia. Le timbre familier du robot l'apaisa alors que les bruits s'amplifiaient. L'angoisse réapparut lorsqu'on déplaça les sacs entreposés sur la trappe.
Ça y est, ils vont me capturer.
Elle se demandait s'ils allaient la tuer sans autre forme de procès quand des martèlements métalliques se réverbérèrent à l'intérieur du tunnel.
Après la première perquisition, Max a voulu camoufler plus efficacement l'entrée de cet abri,
lui dit Jeanne.
Une nuit, il a installé un système d'évacuation dont les conduites passent sous la trappe. Quelqu'un tape sur ses tuyaux.
Nicole retint sa respiration. Elle entendait des voix au niveau supérieur. On déplaça de nouveau les sacs et elle soupira de soulagement.
mais elle ne put s'endormir que lorsque la lumière fut revenue. Aliénor était là, à son éveil. Elle lui annonça que Max démonterait l'installation dans quelques heures pour lui permettre de sortir enfin de sa cachette. Et quand elle eut rampé dans le tunnel, voir Éponine aux côtés de Max la surprit. Les deux femmes s'étreignirent, mais il interrompit leurs effusions.
« Ça suffit comme ça. Le temps presse. Retirer ces foutus tuyaux a été plus long que prévu. Ep, accompagne Nicole à la ferme. Tu lui expliqueras notre plan pendant qu'elle se changera. Je dois encore me doucher et me raser. »
Elles se dirigèrent vers la maison et Éponine lui annonça que tout était prêt.
Max a dissimulé le matériel de plongée sur la rive du lac Shakespeare. Il a également caché un équipement de rechange dans un entrepôt de Beauvois au cas où. Pendant que nous participerons à la fête, il ira s'assurer que tout est toujours là.
« Quelle fête ?» demanda Nicole, déconcertée.
« J'oubliais que vous n'aviez pas de calendrier, » répondit Éponine en riant. « C'est Mardi Gras. Des festivités ont été organisées à Beauvois et à Positano. Le gouvernement a invité toute la population à descendre dans les rues, sans doute dans l'espoir de lui faire oublier ses nombreux problèmes. »
Nicole la dévisagea et elle rit de nouveau.
« Ne comprenez-vous pas ? Le plus risqué, c'était la traversée de la colonie. Tous vous connaissent ici. Même Richard a estimé que c'était une opportunité inespérée. Vous serez costumé et porterez un masque. »
Avez-vous eu des contacts avec lui?
Pas directement. Par l'entremise des robots. C'est votre mari qui a pensé à faire installer les conduites qui ont trompé les policiers lors de la dernière perquisition.
Encore merci, Richard. C'est au moins la troisième fois que je te dois la vie.
Elle entra dans la chambre et vit une magnifique robe blanche étalée sur le lit.
J'ai travaillé une semaine sur ce costume de reine d'Angleterre. Avec ce masque, ces gants et ces collants blancs, nul ne pourra voir que votre peau est noire. Nous participerons aux réjouissances pendant une heure au maximum. Et si on vous interroge, répondez que vous êtes Ali. Elle ne sortira pas ce soir.
Est-elle au courant ?
Nicole eut tant aimé rencontrer sa fille, ainsi que sa petite fille qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de tenir dans ses bras.
Je sais seulement qu'elle était informée du projet d'évasion. C'est elle qui m'a entraîné dans cette aventure. Nous sommes allés ensemble dissimuler le matériel dans la plaine centrale.
Vous ne l'avez pas revue depuis ?
Si, mais nous n'avons pas abordé ce sujet. Elle doit redoubler de prudence car Nakamura l'a fait surveiller.
Qui est dans la confidence ?
Seulement Max, Ali et moi, avec Richard et ses petits robots, cela va de soi.
Nicole regardait son reflet dans le miroir.
Me voici reine d'Angleterre pour un soir.
Elle attribua cette idée à Richard.
Lui seul sait que si j'avais été une blanche, Henri m'aurait épousée.
Elle pensait au passé quand ses amis vinrent la rejoindre et elle éclata de rire lorsqu'elle vit Max vêtu d'un maillot de bain vert minuscule et brandissant un trident. Il personnifiait Neptune, le roi des mers, alors qu'Éponine tenait le rôle d'une séduisante sirène.
« Vous êtes magnifique !»
dit la reine Nicole en adressant un clin d'œil à son ami.
« J'ignorais que vous étiez un véritable athlète, Max. »«
Cette tenue est ridicule !»
grommela l'intéressé.
« J'ai des poils partout, sur la poitrine, le dos, les oreilles et même... »
Éponine lui retira sa couronne et tapota le sommet de son crâne pour faire remarquer.
« Il n'y a que là-dessus qu'il est un peu dégarni. »«
Je ne comprends pas pourquoi j'ai rompu mon vœu de célibat. »
marmonna-t-il.
« Venez, nous devons y aller. Au fait, le temps est encore détraqué. » Vous aurez besoin d'un châle ou d'une veste pour le trajet en bogueille.
En bogueille ?
Répéta Nicole.
Vous le verrez dans une minute,
déclara Éponine en souriant. Quand le gouvernement du Nouvel Éden avait décidé d'utiliser l'alliage extraterrestre des trains pour fabriquer du matériel de guerre, la colonie avait été privée de tout moyen de transport. On avait remplacé les voies ferrées par des routes qu'empruntaient désormais les voitures électriques des hauts responsables de l'État et de l'armée, les camions et les véhicules improvisés par les simples citoyens. Max avait par exemple soudé l'avant d'une bicyclette au centre d'une banquette montée sur un essieu. L'ensemble rappelait effectivement les bogueys qui avaient circulé 3 siècles plus tôt sur la Terre. Neptune forçait sur les pédales pour emmener le trio costumé vers Central City lorsqu'il grommela
« Merde ! Je me demande bien pourquoi j'ai accepté de participer à cette mascarade ridicule !»
Les deux femmes rirent.
« Parce que t'es le plus merveilleux des hommes !»
lui lança Éponine. Le fond de l'air était frais et elle expliqua à Nicole que le temps devenait de plus en plus instable.
Ils ont annoncé à la télévision que le gouvernement compte envoyer de nombreux colons dans l'habitat voisin. L'écosystème est intact là-bas, et nul ne croit encore que nous réussirons à redresser la situation.
Nicole proposa son châle à Max, qui finit par accepter.
« Vous auriez dû opter pour une tenue moins succincte, » fit-elle remarquer.
« Déguiser Max en Neptune est une autre idée de Richard, »
intervint Éponine.
S'il doit transporter du matériel de plongée, cela paraîtra moins suspect.
Le bogey ralentit pour s'insérer dans le trafic des rues de Central City. Nicole se souvint d'une nuit où elle avait été la seule humaine éveillée de tout le Nouvel Éden, des décennies plus tôt. Après s'être assurée une dernière fois que les membres de sa famille étaient bien installés dans leur caisson cryogénique, elle avait grimpé dans son propre sarcophage et s'était apprêté à dormir pendant les années que durerait leur retour vers le système solaire. Une image de l'aigle, l'intelligence artificielle extraterrestre qui leur avait servi de guide au point nodal, se matérialisa dans son esprit.
« Auriez-vous pu prévoir tout ceci ?»
lui demanda-t-elle en résumant l'histoire de la colonie depuis le rendez-vous avec les passagers venus de la Terre à bord de la Pinta.
Et quelle opinion avez-vous de nous à présent ?
Elle secoua la tête, gênée par la conduite de ses semblables.
Ils ne l'ont jamais remplacé,
commentait Éponine. Il venait d'atteindre la place.
Désolé,
fit Nicole.
Je rêve assez.
Je parle du monument conçu par votre mari, la maquette qui indiquait la position de Rama dans la galaxie et qui a été détruite la nuit où la populace voulait lyncher Martinez.
Nicole laissa ses pensées repartir vers le passé.
C'est peut-être cela la vieillesse. Trop de souvenirs qui empiètent sur le présent.
Elle n'aurait pu oublier la foule déchaînée et le rouquin qui hurlait
« À mort, sale négresse !»
« Qu'est devenu Martinez ? »
demanda-t-elle, redoutant la réponse.
Ils l'ont exécuté peu après l'accession au pouvoir de Nakamura et de Macmillan. Le procès a fait la une des journaux télévisés pendant plusieurs jours.
Ils avaient traversé l'agglomération et continuaient vers Beauvois, le village où Nicole et sa famille avaient résidé avant le coup d'état de Nakamura. Le Nouvel Éden aurait pu être un paradis, songea-t-elle en regardant le mont Olympe. Ses pensées avaient fréquemment suivi de tels chemins depuis le départ de Richard. Elle avait dit à l'aigle
« Les humains ont une conduite totalement dichotomique. Nous pouvons être aussi altruistes et compatissants que des anges. Mais, le plus souvent, notre avidité et notre égoïsme dépassent tant nos vertus que nous devenons encore plus cruels que les animaux dont nous sommes les descendants. »